à l'école où nous avons appris l'ABC.
Bonjour à toutes et à tous, nous avons rendez-vous cette semaine avec Carla de Aguilar-Amat, une invitée bien connue à la radio car elle nous présente régulièrement ses impressions, ses expériences, les notes de son carnet de bord en Israël. Carla, bonjour.
Bonjour Pascal, comment ça va?
Je vais très bien, j'espère que tu vas bien aussi.
Oui, moi aussi.
Je suis très heureux de t'accueillir chez moi pour cette interview ici à Jérusalem parce qu'on est voisins et on habite le quartier de Rehab. Il y a un peu pour situer pour nos auditeurs, donc pas loin du centre, pas loin non plus de la résidence du président, de la résidence du premier ministre aussi. Et je pense que c'est pas loin non plus de ton travail. Et ça me donne l'occasion de te poser la première question sur ton travail, donc qui n'est pas loin d'ici. Qu'est-ce que tu fais exactement? Quel est ton travail?
Alors, je suis professeure d'espagnol à l'école américaine internationale de Jérusalem.
D'accord. Aujourd'hui, c'était la rentrée, justement. On est le 12 août. C'est une date un peu spéciale parce qu'on est en plein été. Est-ce que c'est pas un petit peu difficile pour toi de reprendre en plein été?
Non, pas vraiment. Je me suis déjà habituée. C'est maintenant ma troisième année à l'école et je dois dire quand même que c'était la rentrée seulement pour les professeurs. Les élèves vont commencer la semaine prochaine.
Mmh. Alors, qui sont ces élèves ou quelles sont les familles qui inscrivent leurs enfants à cette école? Comment est cette école?
La plupart des familles, des enfants sont des fils de diplomates et aussi on a des fils de journalistes qui travaillent ici. Et on a 40% des élèves américains, 60% internationaux et quelques familles d'ici, de Jérusalem.
Mm-hmm. Bon, tu travailles donc depuis 3 ans, ou c'est ta troisième année qui va commencer.
Oui.
Quelle est la différence entre le système de ton école, le système scolaire, le système de l'enseignement que tu prodigues et le système israélien?
Oui, c'est très différent parce que dans les classes israéliennes, il y a beaucoup d'élèves et nous, on a des classes plus petites. Et aussi, moi, je suis la prof d'espagnol, alors que dans les écoles israéliennes, ils n'apprennent pas l'espagnol comme langue étrangère. Les écoles hébraïque,
comment on dit? Ou israélienne?
Israélienne, oui, mais qui parle israélienne, qui parle en hébreu, ils apprennent l'arabe comme langue étrangère et les écoles arabes israéliennes qui parlent en arabe apprennent l'hébreu comme langue étrangère et tous les deux aussi ils apprennent l'anglais bien sûr.
Ah d'accord, donc toi tu donnes cours en espagnol?
Moi je donne cours d'espagnol en anglais.
Ah ah, ok.
Et... C'est-à-dire un peu en espagnol, un peu en anglais.
D'accord, pour bien expliquer.
Oui.
Ok. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de fêtes pendant l'année.
Oui, on fête toutes les fêtes. Les fêtes, on est une école laïque, une école séculaire, mais quand même, et bien sûr, on fête les fêtes américaines, mais aussi les fêtes chrétiennes, juives et musulmanes.
Donc vous ne travaillez pas?
Oui, on ne travaille pas beaucoup. C'est pour ça qu'on recommande en août.
D'accord. Est-ce que tu remarques parfois des tensions dans l'école ou des préjugés parce que vous avez tellement de cultures et tellement de nationalités représentées, de traditions aussi représentées? Est-ce que tout se déroule normalement ou est-ce que parfois il y a des tensions, des préjugés ou au contraire, est-ce qu'il y a de l'harmonie, de l'entendement, ou une volonté d'entendement?
Oui, c'est une école très spéciale, que moi, vraiment, j'aime beaucoup travailler là-bas. Et c'est une école où on prend soin de la diversité. Et tout se déroule normalement. Quand dans la classe, on a un chinois, un allemand, un américain, un palestinien. On a même des élèves palestiniens, des arabes israéliens, mais aussi des palestiniens qui viennent de Ramallah, de Bethléem. Et ils ont des visas spéciaux pour venir dans notre école.
Ah, wow.
Et on a des israéliens et des palestiniens ensemble dans la classe.
Alors justement, pour parler de cette diversité... qui est parfois difficile à expliquer à l'extérieur d'Israël ou à nos auditeurs en Espagne. Est-ce que cet environnement scolaire peut représenter un modèle à petite échelle de ce qu'est Jérusalem ou pas du tout?
Je crois que un peu oui, un peu non. Jérusalem, c'est comme ça. On va dans les parcs les samedis, ou je sais pas, les vendredis. Il y a des familles juives ultra-orthodoxes et des familles arabes, musulmanes, qui font des barbecues dans les mêmes parcs, non? Et je crois que Jérusalem, c'est comme ça, très divers. Même moi-même, je suis aussi une minorité dans l'école parce que tous les profs sont américains. Moi, je suis espagnole et aussi pas juive, alors je suis aussi une minorité moi-même.
Est-ce que tu as l'occasion de parler hébreu dans cette école?
Pas beaucoup, mais avec quelques parents, on a un garçon qui nettoie, il est arabe, mais quand même, je parle avec lui en hébreu.
Alors, tu m'as dit que toi, tu donnais cours d'espagnol en anglais. Quelles sont les autres langues que les élèves reçoivent?
Ils peuvent choisir entre français ou espagnol, c'est-à-dire la moitié des élèves en français, la moitié en espagnol, et aussi quelques enfants qui sont à peine arrivés à l'école, ils ne comprennent pas bien l'anglais, ils viennent pas chez nous et ils vont dans des cours privés d'anglais au moment-là.
D'accord. Bien, depuis quand est-ce que tu vis en Israël?
Depuis 2 ans et demi.
D'accord, donc dès que tu es arrivé, tu as commencé à faire ce travail. Et nos auditeurs savent, surtout ceux qui comprennent l'espagnol, que tu es marié depuis quelque temps. Et donc j'aurais une question un peu plus générale sur Israël, sur Jérusalem. Qu'est-ce qui t'a surpris ou qu'est-ce qui te surprend le plus encore maintenant en Israël?
Vraiment, chaque jour, je ne peux pas expliquer, mais il faut venir à Jérusalem et voir avec chacun doit venir et les voir, non? Parce que vraiment, c'est l'atmosphère. C'est chaque jour, il y a des choses spéciales. C'est, je sais pas, c'est une ville différente de toutes les villes où je suis été avant.
Et qu'est-ce qui te dérange le plus en Israël? C'est une sorte de test, hein?
Oui, un test. Ce qui me dérange le plus, c'est que les Israéliens, quelquefois, sont très impolis.
Plus impoli qu'en Espagne.
Oui, tout à fait.
Et quelle est la réaction des gens, justement en Espagne, de ta famille, de tes proches, de tes amis ou même d'inconnus quand... Bah, tu expliques simplement que tu vis, tu travailles en Israël.
Au début, c'était un peu une nouveauté, mais maintenant, ils sont déjà habitués parce que j'habite ici depuis 2 ans et demi, mais je viens ici depuis 3 ans et demi parce que j'ai rencontré mon copain, mais non mon mari, il y a 3 ans et demi. Alors, ils se sont déjà habitués, ils viennent me visiter aussi. Et oui, ils me posent beaucoup de questions, mais c'est normal pour eux déjà.
Oui, c'est normal pour eux. En même temps, comme tu connais la réalité en Israël, la réalité du pays, l'existence des difficultés, enfin, tout ce que tu as rencontré en Israël, est-ce que c'est difficile d'expliquer cela à l'extérieur, d'expliquer toute cette diversité dont on a parlé et d'expliquer toute la richesse aussi de ce pays à l'extérieur, justement à tes amis, à tes proches et tout ça.
Oui, c'est difficile, mais c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans les programmes diaries d'un espagnol en Israël. Je fais un peu de publicité, mais c'est un peu ce qu'on essaye de faire, raconter comment c'est la vie ici pour un étranger et pour un espagnol.
Si tu quittais un jour Israël, est-ce que tu aimerais continuer à enseigner? À donner des cours.
Oui, bien sûr. J'aime beaucoup mon travail, mon métier, j'aime beaucoup. Et oui, j'aimerais continuer, bien sûr.
Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier?
C'est le contact avec les élèves. Il paraît que c'est les élèves qui apprennent des professeurs mais c'est aussi les professeurs qui apprennent des élèves.
Et est-ce que tu as un souvenir particulier ou un bon souvenir que tu as gardé en mémoire de ces bientôt 3 ans d'enseignement?
À l'école, vraiment beaucoup de souvenirs, mais quand je me suis mariée, par exemple, ils m'ont fait deux fêtes surprises, une fête surprise des professeurs et une fête surprise mes élèves.
Et comment s'est passée cette fête?
La fête des élèves, c'est les élèves des 4th and 5th grade, qu'ils sont dans cet âge déjà. Oh, la prof d'espagnol va se marier, va se marier. Alors, quand je suis rentrée dans la classe, ils m'avaient écrit des petites notes et ils avaient, comme ça, fait une petite surprise, disons, qu'ils ont appelé une fête, mais c'était une petite surprise. Et les profs aussi, dans la réunion des professeurs, ils m'ont fait aussi une petite fête avec un gâteau et un cadeau. Et ils voulaient que j'aie raconté de mon mariage et choses comme ça.
Parce que fourth and fifth grade, c'est quel âge plus ou moins?
C'est 8, 9, quelquefois 10 ans, oui.
Donc c'est un petit peu l'âge que toi tu ou l'âge de tes élèves, hein, donc
Non,
non.
non, moi je fais tous les âges. J'ai fait de 3 ans à 18 ans. J'ai fait tous les âges. Je commence les jours avec 3 ans, j'ai fini les jours avec 18 ans.
Et quel est l'âge le plus difficile, s'il y en a un?
Middle school.
C'est-à-dire adolescent, donc
Oui, adolescent. Oui, bien sûr.
Bien. Bien, mais je te souhaite beaucoup de courage pour cette année scolaire qui commence et de bien préparer tes cours pendant les jours de congé que vous allez avoir.
Oui, merci.
Non, je sais que tu travailles beaucoup, que c'est difficile de donner cours en général. Bien, je te remercie beaucoup et je donne rendez-vous à mes auditeurs dans 2 semaines. Merci beaucoup, Carla.
Merci à toi.
À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvres-nez, des cancres, des crétins crasseux. En travaillant exclusivement que pour nous, les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser pour de bon, un baiser libertin, un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin. Aux pupitres alors, quelque chose changea. L'école buissonnière eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne, crac, connurent tout à coup la faillite, le crac, la faillite, le crac. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellence ex aequo, d'excellence ex aequo. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à 1 h indue, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile, alors recteur d'académie de l'école. En dépit de son beau palmarès, on chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition, le fort anthème est redevenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco. Nous étions tous derniers de la classe, ex aequo de la classe ex aequo. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.